avant de passer à l'introduction de cette citation 16, donc métamorphose et contamination, permanence du changement, sur une proposition donc de Julien Discrit et Raphaël Brunel, vous dire qu'on s'inscrit dans le cadre de la Biennale de Lyon. Donc parmi les œuvres qui seront à l'étude, vous en découvrirez un certain nombre dans l'espace qui est dédié aux œuvres ici à l'IAC, ainsi que physiquement demain aux usines Fagor. En gros, bienvenue dans le tunnel où la station 16, c'est-à-dire qui commence dès maintenant et qui se terminera en début d'après-midi demain. Que dire, vous remerciez donc tout ce que je le disais, Julien Discrit, Raphaël Brunel. Oui, c'est la symbiose. C'est aussi donc en présence de notre modérateur préféré, donc Cyril Noirjon. Les intervenants vont se succéder. Et là, pour le coup, nous avons Hélène Vial qui nous a rejoint. Je voulais aussi remercier les participants. Alors, le mot actif sera peut-être modifié, mais qui sont venus à nos côtés. Et donc, j'avais demandé à voir la liste pour ne pas oublier leur nom, même si je les ai un tout petit peu en tête depuis ces années. Alors, tu peux peut-être...
D'accord. Donc, Jérôme Grivel, qui est juste là. Nous avons aussi Mengzi Zeng, qui est juste là. Van Sogomian. Florian Varenne, qui est là-bas. Stéphanie Raimondi. Flora Katz, qui est de l'autre côté. Et voilà. Et Anne-Véronica est là aussi. Ah oui, pardon, il manque sur la liste Sandra Lorenzi, qui est à côté. Voilà.
Oui, alors tout ce monde-là, donc deux initiatrices, nous deux, Anne-Véronica et moi, des concepteurs, les deux qu'on vient de citer, un modérateur, des participants actifs à chaque table, plutôt des artistes, jeunes artistes, et une critique d'art curateur, Flora Katz, qu'on a plaisir à accueillir de nouveau suite à sa venue à la station 14, qui s'appelait donc Matière et métabolisme, conçue avec Hélène Guénin. En co-conception. Voilà, donc c'est vous dire aussi qu'on est plus au bout de 3 ans d'un cycle qui s'appelle Vers un monde cosmomorphe. On s'interroge sur la manière d'évoluer par rapport à ça. En tous les cas, c'est plus pourquoi ou faut-il, c'est comment. Comment se transformer, comment se métamorphoser. Voilà, je vous souhaite de belles journées.
Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se joint, puisqu'on ne parle que d'une voix, plus que d'une voix. Je me joins au remerciement que vient de faire Nathalie, bien sûr. Donc, afin d'introduire ces journées d'études, enfin, ces deux demi-journées du laboratoire Espace Cerveau, nous voulions, avec Raphaël, revenir en quelques mots d'abord sur la genèse de cette station. Elle s'articule autour de deux points. D'abord, évidemment, autour des échanges que nous allons mener ensemble aujourd'hui et demain, mais aussi au sein d'un espace physique et visuel, la salle 8, que j'espère vous avez eu l'occasion de visiter déjà, et que nous visiterons de toute façon tout à l'heure ensemble pour ce qui concerne les œuvres à l'étude, donc les œuvres qu'on va regarder d'un peu plus près pendant ces deux jours, aussi bien ici qu'à Fagor. Et donc cette salle 8 qui forme une sorte de cartographie mentale constellée des recherches que nous avons effectuées pour cette station. Donc j'en reviens à la genèse. Donc Nathalie nous a donc invité à consacrer un temps et un espace de recherche qui ferait écho aux problématiques, au moins pour une partie d'entre elles, soulevées par la Biennale de Lyon donc de cette année, intitulée « Là où les eaux se mêlent ». Pour le dire rapidement, cette dernière, la Biennale, donc, explore à travers un ensemble d'œuvres les interactions qui peuvent exister entre humains et non-humains et qui dessinent des écosystèmes, des représentations complexes. Bref, un monde enchevêtré et cosmomorphe, pour reprendre un terme cher au labo. Le projet de la Biennale tend ainsi à rendre compte, à notre avis, d'un doute, d'une incertitude et peut-être d'une forme d'anxiété profonde qui traverse notre époque, caractérisé par une remise en cause des dualismes issus de la modernité, nature, culture, sujet, objet, âme, corps, etc. L'homme n'est plus au centre de l'univers, il n'est plus seul doué d'une forme de raison, de sensibilité ou d'intelligence. Il n'est plus maître et possesseur de la nature, pour reprendre la fameuse formule de Descartes. La nature, justement, lui échappe. Et nous pourrions même dire, c'est au fond ce qui sous-tend cette station 16, je crois, que sa propre nature lui échappe. Au fond, il ne sait plus très bien qui il est, unique sujet dans un monde d'objets plus ou moins vivants et animés, peut-être. Tout ceci, bien sûr, avec comme toile de fond le bouleversement climatique, la crise du vivant et des écosystèmes de ce qu'on a désormais pris l'habitude d'appeler l'anthropocène. C'est donc en écho à cette manifestation qu'est la Biennale de Lyon et à ses thématiques, à défaut d'un terme plus approprié, que la station 16 s'est construite. Ce fut un enjeu de taille. Ces grands sujets, propices sans doute au format d'une biennale, semblent à l'évidence plus difficiles à manier dans le cadre qui nous intéresse ici. Le risque est grand, en effet, de tomber dans la litanie de ce qui se dit déjà sur ce sujet, maintenant largement débattu autour d'un terme, l'anthropocène donc, qui ne cesse de se redéfinir et qui peut-être voit l'époque qu'il est censé pourtant décrire lui échapper, dans une sorte d'emballement. Difficile en effet de produire une pensée globale et réflexive sur sa propre époque. Pour le dire autrement, il nous a semblé délicat d'appréhender un tel sujet de front, sans risquer en effet d'enfoncer des portes ouvertes. Comment dire plus? Comment dire mieux? Comment alors trouver les axes pour les aborder autrement? On pourrait dire par la bande. Comment être dans le sujet tout en le faisant glisser sans cesse vers plus d'ambivalence? Plutôt que d'aborder ces grandes questions frontalement, donc, nous avons pris le parti de les engager à une échelle plus infime, plus intime aussi, celle du moléculaire, du cellulaire, de la matière et enfin du corps. Pour autant, nous verrons que paradoxalement, c'est en regardant de plus près que l'on peut précisément prendre du recul. En voulant éviter ces grands sujets ou en voulant les traiter à leur marge, en adoptant cette approche moléculaire, pourrait-on dire, nous avons été paradoxalement renvoyés à des questionnements tout aussi vertigineux et protéiformes qui touchent à l'être, au sensible, aux images. Nos recherches concernent majoritairement des artistes et des œuvres plastiques, puisque, je le rappelle, Raphaël et moi, sommes respectivement critiques commissaires et artistes. À ce sujet, je tiens à dire que nous n'avons pas constitué une liste d'artistes en essayant de les faire correspondre à des critères préétablis parmi ceux que nous avons évoqués à l'instant. À l'inverse, notre recherche ne s'est pas construite non plus comme un commentaire d'un ensemble d'œuvres préétablies. Nous avons simplement tenté d'avancer en simultané, associant certaines œuvres par rapprochement formel, par accointance et par ricochet intuitif, et en essayant de dégager quelques sous-ensembles parmi cette sélection plutôt généreuse. Si la métamorphose et la contamination sont des réalités tangibles, elles sont par ailleurs des sources fécondes et intarissables pour l'imaginaire. Que l'on pense évidemment aux Grecs et à Ovid, dont Hélène Vial nous parlera dans quelques instants, en passant par Kafka ou Lovecraft, à la littérature et au cinéma fantastique de science-fiction, qui regorge de créatures hybrides, de parasites aliens ou de maladies inconnues. La métamorphose fait image. L'imagination est peut-être, elle aussi, fruit de métamorphose et de contamination. C'est ce à quoi Grégory Chatansky tentera de répondre demain dans l'intervention qui clôturera ses journées d'études. De la philosophie à la microbiologie, de la phénoménologie à la botanique, de l'anthropologie aux arts plastiques, de nombreux champs de la connaissance réévaluent l'autonomie et la stabilité, jusqu'ici supposées des formes et des êtres, à l'aune de dynamiques qui privilégient la transformation, la mutation continue. Rien ne serait plus totalement figé, rien ne serait plus permanent. Tout serait affaire de changement, d'évolution. Une permanence du changement, en somme. Sujet apparemment classique, la métamorphose a logiquement été notre porte d'entrée. Passage d'un état à un autre, la métamorphose induit un processus, plus ou moins rapide, d'altération, qui déplace, dénature, modifie l'état initial ou habituel d'une chose ou d'un objet. Si le sens commun du mot, associé donc à l'idée de transformation, ne pose aucune difficulté, il semble tout de même que quelque chose résiste dans la métamorphose en tant que phénomène. Il y a dans ce processus une sorte de pas de deux, une indétermination qui en fait toute sa substance. Quelque chose disparaît, quelque chose meurt, mais il y a aussi quelque chose qui, dans la métamorphose, subsiste. Qu'est-ce que cette forme qui est le corps? Quelle est l'identité de ce qui est transitoire? C'est bien cette question du corps et de ses états à travers la métamorphose que nous avons voulu explorer ici. Dans un livre remarquable intitulé « Les âmes sauvages », l'anthropologue française Nastassia Martin dépeint avec une grande acuité les changements brutaux et souvent dramatiques à l'œuvre dans le Grand Nord, touchant en particulier les populations Gwich'in d'Alaska qu'elle a longuement étudié. Ils sont en première ligne face à ce qu'elle appelle les métamorphoses écologiques. Elle nous livre ce constat, donc là je la cite. Aujourd'hui, plus un être n'est identique à lui-même, ni homme ni animal. La métamorphose peut donc être entendue comme le paradigme d'un monde en plein bouleversement où les identités sont fluctuantes et les catégories établies vacillent, où personne ne se ressemble plus et devient étranger à soi-même. Dylan Trigg, je pense, nous parlera plus précisément de ce point demain, à savoir cette notion de corps étranger ou de corps aliéné. Et je passe la parole à Raphaël.